Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Je veux qu'on se parle, avant d'aller retrouver Nicole Gibeault, un peu de la situation dans les écoles. Il y a une école dans le coin de Joliette qui est fermée. On a de plus en plus de cas. Est-ce que c'est encore une bonne chose qu'on n'ait pas justement de système de code? Au niveau de la traçabilité aussi des cas, il semble encore avoir des problèmes. Puis c'est un peu paniquant pour les parents, pour vrai, là, parce que tu sais la fameuse lettre COVID dont je vous parle depuis le début de la saison, là, mais il me semble que j'en reçois comme à quasiment à chaque semaine. Là, à un moment donné, à l'école secondaire de ma fille, c'est quand même 2000 élèves. C'était quasiment une par jour. Puis je critique pas la façon dont c'est fait, l'envoi de la lettre et tout ça, mais ce qui est assez particulier, là, c'est qu'après avoir reçu cette lettre-là, c'est un peu le néant qui nous attend comme parents. C'est-à-dire, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on sait pas trop quels élèves, puis ça c'est normal, sont mis en isolement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais on sait pas si la situation s'est rétablie. Puis l'école non plus, quand on appelle au secrétariat ou à la direction de l'école pour savoir qu'est-ce qui se passe, de quoi il en retourne, on peut pas vraiment nous fournir de réponse. Tout ce qu'on se fait dire, c'est on suit la procédure. Donc moi, j'ai hâte de voir là comment ça va se goupiller, parce qu'on le sait qu'en ce moment, les éclosions, ben ce sont justement dans les centres pour personnes âgées et dans les écoles. Si la situation continue, je vais utiliser le mot se détériorer, il faut pas paniquer. Là, je pense que le nombre de cas est stable. Il y a rien pour écrire à sa mère en ce moment, mais va falloir qu'on mette au point un système pas mal plus efficace dans les communication avec les parents, parce que c'est pas très, très clair. Bon, allons parler avec Nicole Gibeault. Salut, Nicole.
Salut, Geneviève.
Écoute, moi, en fin de semaine, j'ai tombé sur une histoire de fraude, mais un peu rocambolesque. Un homme d'affaires des Laurentides qui est au cœur d'une méga fraude alléguée de 30 millions de dollars. Jean-François Desormeaux, qui serait la tête dirigeante, justement, d'un réseau où on prenait de l'argent à des investisseurs, une quarantaine. Ça s'est échelonné sur 5 ans, selon des allégations. Ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on demandait aux investisseurs, justement, de donner de l'argent, que ce soit pour des terrains, des commerces. Je pense qu'il était même question là, de franchise, de restauration rapide. Mais cet argent-là était placé dans le compte en fidécommis d'un notaire qui était évidemment supposément complice. Et cet argent-là aurait servi à s'acheter des biens de luxe. On parle de Mercedes, on parle de Porsche, on parle de montres à 60 000 piastres, on parle d'une maison, de bateau. Et moi, ce qui me fait sourire, Nicole, dans cette histoire-là, c'est qu'un des investisseurs serait juge à la Cour du Québec. Il va être bien, M. Desormeaux? Je ne sais pas, là, mais... Tu sais, quand on parle de choisir une cible, là...
Ouais, mais je pense qu'il choisissait pas juste. Bon, là, il avait choisi ce criminaliste, oui, qui a été nommé par la suite à la Cour du Québec comme juge. Il avait choisi un notaire qui supposait, qui apparemment serait son complice, puis que il a fait. Il aurait également choisi une avocate.
Oui, faire office de poteau, là, c'est un prêtre, non?
Je pense qu'il ciblait des gens qui étaient. Probablement très en moyen pour toutes sortes de bonnes raisons, mais qui avait aussi un peu de connaissances, là, j'imagine, dans la situation. En tout cas, le poteau rose semble avoir été trouvé, et je pense que justement la conjointe et le monsieur qui est juge à la Cour du Québec maintenant ont entamé des procédures civiles. Mais il y a deux fronts là-dessus, parce que c'est une fraude alléguée, là. Mm-hmm. 30 millions, c'est pas rien, là. Évidemment, ce monsieur-là fait l'objet en ce moment. Il n'a pas été accusé, à ce que je sache. Mais on dit dans le papier qu'il ferait l'objet d'enquête, qu'il est toujours sous enquête criminelle. Mais il fait l'objet, j'imagine, de recours civil de plus d'un des investisseurs floués. Parce que pour arriver à 30 millions, même si on a vu des prêts du juge à la Cour du Québec maintenant, là, et sa conjointe de 650 000, ben, ça en prend pas mal, là, pour arriver à 30 millions. Alors, il y avait énormément de gens qui lui ont fait confiance. Puis, moi, ce qui je trouve aberrant, pourquoi je comprends qu'avec tout cet argent-là, que tu peux peut-être pas aller sous le, tu sais, tu peux pas te promener très facilement là, sans que ça paraisse, là, mais pourquoi toutes sortes de choses comme ça, des Porsche, des Rolex, des ci, des ça, puis on va à des grands prix, on paye.
Mais c'est la pas du gain, Nicole, c'est de fronter qu'on a bien de l'argent, puis qu'on a un train de vie de fou, mais c'est avec l'argent des autres, finalement, tu sais.
Avec l'argent des autres, mais c'est parce qu'à un moment donné, le poteau rose se découvre.
Oui, puis ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Si tu veux frauder ce type de personnes-là, tu sais, quand tu me parles d'un investissement de 150 000 $ là, c'est pas n'importe qui là, qui peut allonger ce type de somme-là. Il faut que tu projettes une image de succès si tu veux que ces gens-là embarquent dans ton affaire.
Oui, ben apparemment que c'était une espèce de compagnie de prêt là, que ces gens-là avaient. Alors, j'imagine que c'est dans ce contexte-là. Alors, puis il y a des restaurateurs, il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui sont associés. En tout cas, c'est tout un réseau qui semble se dessiner. Cette enquête-là, mise à part les poursuites au civil, comme on disait, par les investisseurs qui ont été floués, parce qu'ils se sont ramassés avec des garanties qui valaient plus rien ou presque, on change de terrain. Le notaire aurait imité la signature d'une dame pour transférer des garanties. Tu sais, c'est
très illégal. Je pense plus qu'il va être notaire.
Il a été radié apparemment pour un an. Ça, je vais vous avouer que j'étais un peu surprise.
Pourquoi?
Ben un an.
Ben c'est ça, il a pas été radié à vie. Pourquoi? C'est juste un an.
Je sais pas. J'ai pas de motif de cette décision-là. Ce que je lis, c'est qu'il aurait été radié pour un an. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres considérations?
Mais est-ce qu'on attend de voir aussi? C'est ça.
Ben, peut-être, oui, il y a peut-être des remboursements. Peut-être que, tu sais, s'il fait des remboursements de X nombre de millions, plus une radiation, faut peut-être balancer les deux. Le pourquoi, je le connais pas, mais le chiffre m'a un peu estomaqué quand j'ai vu un an. J'espère qu'il a remboursé quelque chose à quelqu'un.
C'est fou que de se dire que dans cette histoire-là, puis on parlait de fraude la semaine passée aussi, puis de ce documentaire sur les voleurs d'identité, puis il y a tout le temps cette idée, c'est clair que tu vas te faire pogner, c'est juste une question de temps. Puis ces gens-là s'avancent quand même en sachant totalement qu'il y a une date de péremption à leur mode de vie frauduleux. Puis malgré ça, puis l'ego, tu sais, l'ego, Nicole, les photos Instagram, tout ce qu'ils mettent de l'avant pour flasher, ça fait qu'ils se font pogner plus vite. C'est ça aussi qui est fou.
Mais disons qu'ils pourraient profiter, c'est quelques fraudeurs là, quand ils sont une fois démasqués et trouvés coupables, évidemment, là. Ils ont profité beaucoup. Là. Ils ont très, très bien mangé, ce qu'ils pourront pas remettre. Ils ont très, très bien voyagé, ce qu'ils pourront pas remettre. Ils ont très, très bien fait beaucoup de choses. Et on se dit, ben c'est ça. C'est comme vieillir. À un moment donné, il y a une date de péremption. Si je dure 10 ans, je durerai 10 ans, 15 ans. Mais ça sera le fun pendant 10, 15 ans.
Moi, j'aurais eu un beau bateau.
Ben, regarde, là. C'est complètement tout croche comme mentalité. Mais
ils pensent pas le mal qu'ils font aux gens. C'est aux gens qui.
Oh, non, ça c'est le dernier de leurs soucis. Mais le dernier pour avoir vu des fraudeurs, le repenti est très très peu présent.
Bon, là Nicole, on va se parler d'un dossier. Moi, j'appelle ça une fausse bonne idée. Ok. C'est un monsieur. Tommy Maheu Turcotte, qui a eu la fausse bonne idée un soir de beuverie d'emprunter la chemise de police de sa blonde, donc sa blonde était policière, et de se pointer dans un bar du 10-30 à Brossard pour aller faire bombance. Donc, s'est promené dans le bar, a porté la chemise. Puis là, je suis pas sûre que je comprends si c'est clair, mais je pense qu'il y avait aussi l'insigne du service de police de l'agglomération Longueuil. C'est pas dit dans l'article Journal de Montréal si c'est l'insigne de sa copine, mais on s'imagine que oui.
Ben, je pense que oui, on s'imagine.
Ce qui est vraiment... bon, d'un, ça, c'est la fausse bonne idée, mais de deux, ce jeune homme-là, qui était sous comme une botte, ben se servait de la chemise de police et de l'insigne pour aller cruiser d'autres de fille que sa blonde. Oui. Tu sais, là, quand on parle d'un grand champion.
J'avais le même mot. Alors, le dragueur qui se déguise en policier puis qui pense qu'il va faire tomber des cœurs plus facilement parce qu'il y a une badge puis une chemise, c'est vraiment...
Une chemise de femme?
Oui, puis, mais tout ça pour dire que En bout de ligne, il y a quelqu'un, évidemment, qui a allumé puis qui a fait, c'est-tu drôle, un policier aussi sous que ça qui drague dans un bar. Bon, a eu la présence d'esprit d'appeler, évidemment, le SPVL et qui se sont rendus sur les lieux pour s'apercevoir que c'était pas du tout un de leurs collègues, mais plutôt quelqu'un qui portait des vêtements de, mais tu sais, je pense qu'ils étaient en, pas je pense que ce que l'article dit, c'est qu'ils étaient en séparation, ou enfin lui était très
il allait pas bien,
peiné, ça allait pas bien, puis il a pris effectivement un verre de trop, et non, c'est pas à faire, parce qu'il a hérité, il a eu une peine, parce qu'évidemment c'est personnifié, un policier.
Oui, t'as pas le droit, hein, c'est illégal.
Non, pas du tout, c'est totalement illégal, pour toutes les raisons qu'on peut comprendre, ça peut devenir très, très dangereux de se fier à quelqu'un qu'on pense qui est policier.
Il y a plein de criminels qui ont fait ça. Il y a plein de criminels qui ont fait ça pour rentrer chez le monde, se faire passer pour des policiers.
Exactement.
Mais OK.
Exactement. 18 mois de probation dans une sentence suspendue, je peux un petit peu comprendre, là, avec 100 heures de travaux communautaires. Je me demande où il va les faire, les 100 heures de travaux communautaires. Il faut être ingénieux dans des cas comme ça. On va y trouver quelque chose, là, je pense, qui va être...
Précoute des costumes d'Halloween.
Ben, tu sais, on peut avoir toutes sortes d'idées, là, mais enfin, de ce temps-ci, c'est pas les bénévoles qui manquent, là. On comprend que on va sûrement essayer de trouver une façon, mais 100 heures quand même, là, pour qu'il soit,
qui a eu sa leçon.
C'est ça.
Mais là, Nicole, dis-moi, c'est interdit de se déguiser en policier ou d'incarner quelqu'un qui représente l'autorité, oui, dans l'espace public, mais les gens qui se déguisent en police à l'Halloween, ça, on a-tu le droit? Ou techniquement,
ben,
non?
Je pense que c'est pas nécessairement une bonne idée. Moi, je t'avouerai que je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu dans des parties d'Halloween.
Oui.
Où quelqu'un avait pris des photos, puis j'étais un petit peu, je me suis dit, oh, quelle party. Je suis pas certaine, parce que honnêtement, se déguiser, ben, d'abord, premièrement, je veux dire, il n'y a pas de faux. Ça a toute l'air du vrai, ces affaires-là. Là.
Mm-hmm.
Alors, à mon humble avis, même si on disait, ben là, j'ai pris ça pour un party d'Halloween privé dans sa maison. Si tu sors pas, peut-être que là, il n'y a aucune dénonciation, mais à mon avis, non. Tu peux même pas le faire. Je serais très, très surprise. Surtout pas prendre ton auto pour t'en aller déguisé en policier avec la casquette et tout, puis la badge, puis te rendre d'un endroit X.
On laisse ça aux enfants.
Sur la route, là. Tu peux pas, là. C'est définitivement quelque chose que tu peux pas faire.
Bon, y a-tu déjà quelqu'un qui t'a volé ta toge?
Non, mais je vais te dire qu'il y a déjà quelqu'un qui m'a demandé de l'emprunter pour un party d'Halloween. C'est à quoi j'ai dit non.
Bon, OK. Ça, la vérité est établie. OK, parlons maintenant de ce braqueur de banque, Alain Sainte-Marie, qui a été reconnu coupable. Quand même, cet homme qui avait une lourde feuille de route, là.
Ben, écoute, non seulement longue feuille de route, mais je me souvenais de ce braquage en 2016.
À Outremont.
Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment, vraiment digne d'un film d'Hollywood. Et d'ailleurs, c'est ce que l'article disait. Puis c'est vrai, là, parce que lui, supposément, prétend que son complice était Capone. C'est déjà là, on part bien. Alors, et lui a déjà eu un procès. Il a été trouvé coupable. Il a pas accepté, puis c'est correct. Il a le droit d'aller en appel. Par la suite, il a dû avoir pour une raison X, une question de droit, j'imagine, un deuxième procès. Mais là, cette fois-ci, c'était devant juge et jury. Et on est en pandémie. Alors, on a un exemple de dossier. Ça fait 3 semaines que ça dure. En pandémie, donc avec distanciation. Je sais pas si vous avez déjà vu une salle de cours avec des jurys, mais ils sont pas à 6 pieds d'habitude. C'est comme coude à coude. Ils ont de la misère à écrire tellement que les coudes se touchent.
On pourrait pas penser faire des jurys par Zoom en ce moment?
Ben, je sais pas comment ils ont procédé. C'est fort intéressant, mais je sais que le procureur de la Couronne, dans ce dossier-là, a dit bravo au système judiciaire. On a enfin réalisé un premier dossier de procès par jury.
Oui.
Alors, ça serait intéressant de savoir comment physiquement ou comment ils ont procédé, mais ça a fonctionné. 3 semaines d'audition et il y a eu un verdict de culpabilité. Évidemment, dans ce dossier-là, à cause du mot que tu as employé au début, multirécidiviste,
oui.
Il n'est pas à sa première fois en braquage de banque, là. Alors, et à ce moment-là, on va peut-être demander qu'il soit déclaré délinquant dangereux.
Je savais même pas qu'on pouvait faire ça pour d'autres choses que de la délinquance sexuelle.
Ben, c'est rare qu'on l'applique. D'habitude, on le voit vraiment dans ce genre de dossier-là, cette demande-là, mais c'est pas une impossibilité. Et il faut évidemment que la sentence soit de plus de 2 ans. Je pense pas ici qu'on va se poser tellement de questions là après un multirécidiviste de braquage là, avec tout ce qu'il y a comme infraction reprochée dans ce dossier-là, parce qu'il y a pas juste ça, là, il y a vol, évidemment.
Ouais, puis s'est sauvé, puis il est rentré d'un appartement, puis il y a eu un périmètre de sécurité là, c'était comme dans Monica la mitraille.
C'était quelque chose là, exactement, c'était vraiment vraiment quelque chose. Et puis dans les circonstances, le DPCP réfléchit sérieusement à tenter d'utiliser ceci, mais évidemment ça sera seulement lors des représentations sur sentence qu'on on en aura le cœur net.
On se reparle demain, Nicole. Merci.
Merci. Au revoir, Geneviève.